Voilà, c'est parti. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Suis le Prabhupada qui Jai.
Jai.
Alors voilà, on était rendu à la page 23, à la ligne 26, et ça parle de d'abandon, de soumission du sujet éternel, de l'âme conditionnée, la principale intéressée. Et Krishna aussi, d'ailleurs, qui est intéressé à ce qu'on s'abandonne à lui. Alors voilà. Ah, Virginie revient. Voilà. Alors voilà, laissez arriver. Allez, Krishna. Alors, Ananda, voudrais-tu lire?
Oui, avec plaisir. Donc, ligne 26, hein, c'est ça.
C'est ça, oui.
Alors, fort de tout ce savoir, pourquoi attendre encore avant de nous abandonner au Seigneur? Cependant, s'abandonner au Seigneur n'est pas un vœu sentimental. Il doit se traduire sur le champ, en action concrète, chercheuse de bhakti. L'action concrète consiste à se débarrasser, un, une fois pour toutes, de son vieux chapeau d'arrogance à la « Je suis Dieu, excusez ma » ma condescendance, pardon, et deux, suivre un million de fois, suivre les autorités en matière de vie spirituelle, guru, sadhu, sastra, pour arriver graduellement, mais sûrement, à obéir à Dieu sans jamais faillir. C'est possible, et ça demande un profond désir de le faire. De ce pas, le péché originel dont parle la Bible se voit résolu une fois pour toutes. La vile désobéissance originelle, dissipée à jamais, laissant exulter l'âme libérée de pareille débile méprise. Il n'est aucune autre alternative à ce problème existentiel avant même pouvoir envisager avoir une chance d'entrer dans le royaume de Dieu, Bhagavan, Shri Krishna. On ne peut l'atteindre avec un cœur entaché d'impudente désobéissance. Il faut donc se purifier du péché millénaire d'envie de Dieu et retrouver sa vraie nature, toute simple, d'éternel serviteur, entièrement fidèle dans l'âme, animé de toute la foi nécessaire pour ce faire. Ce n'est qu'en s'engageant dans le service de dévotion, à l'exclusion de toute autre méthode, que cela devient possible. Pareil engagement témoigne d'une adhésion sans équivoque à la conclusion parfaite de la Bhagavad Gita, telle qu'on peut la lire répétée à travers plusieurs versets clés, tels que 7.19, 9.8, 9.34, 18.66 et 18.73.
Est-ce qu'il y a des
Donc, pardon.
questions, des commentaires?
Ça fait du sens.
Madame Ananda.
Ah, pardon.
J'avais une question sur l'abandon. Pour être plus clair dessus, quand on est abandonné à Krishna, ça veut dire que de notre côté, il n'y a pas, on ne juge pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. On devient des contempleurs de sa volonté. C'est ça, ça veut dire que notre opinion veut dire il n'y en a plus. Parce qu'on voit la volonté de Dieu partout. Il y a juste ça qui
C'est vraiment
existe.
un truc tout bête, hein, mais je vois pas ce qu'il faut, sur quelle touche je dois appuyer pour pouvoir Virginie,
déverrouiller
on
tout.
t'entend? On t'entend?
Parce que
On
je vois
t'entend?
tout bouge comme
Hello?
je vois les trucs bouger, les trucs bleus. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe.
Désolée.
Bon.
Sais pas comment lui parler. Pour la check, son écouteur à gauche, il est
Bon,
un
ben.
petit point. Ouais,
Je vais vous laisser faire le cours parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis désolée.
ouais. OK.
Oui,
Bon.
Ananda.
Alors, s'abandonner à Krishna, c'est un sujet qui est très vaste et qui peut être commenté de plusieurs façons. Mais toujours est-il que, comme on va, dans, il y a deux façons de servir Krishna, justement. Parce que, comme tu dis, tout est l'énergie de Krishna, en fait, il y a Krishna partout. Alors, il y a deux façons de servir Krishna, et ça, c'est expliqué dans par Srila Prabhupada. C'est ça. C'est ce qui va être expliqué dans ce qui s'en vient, qui s'appelle la conclusion à la page suivante. Ça va être débattu. Alors, il y a deux façons. Il y a une façon directe et une façon indirecte. Dans une façon ou d'une autre, on est toujours serviteur de Krishna. Alors, pour faire ça très, très court, on peut servir Krishna directement, c'est-à-dire par le service de dévotion, ou dans un autre sens, notre position d'éternel serviteur de Krishna, elle est toujours là, mais si on ne sert pas Krishna, on doit nécessairement servir son énergie inférieure, qui est l'énergie matérielle. Mais ça ne change pas notre position intrinsèque, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre âme, on n'est qu'un serviteur, on n'est jamais rien d'autre qu'un serviteur. Alors, la conscience de Krishna, ça veut dire être conscient que si je suis un serviteur, au lieu de servir 30 000 choses, pourquoi je ne servirais pas Krishna à la place? Alors, ça, c'est la démarche, disons, fondamentale d'un dévot. Tant qu'à être serviteur, ben pourquoi ne pas être serviteur de Krishna? Alors, oui?
Comment se fait la switch entre servir Krishna ou servir l'illusion? Comment se fait la switch? Où est-ce qu'elle est l'état de pensée ou d'action? Comment
Ben, je vais te répondre d'une façon très simple et imagée. Quand tu rentres dans une chambre, dans une pièce, que tu veux la lumière, c'est pas si difficile que ça de trouver justement le commutateur. Parce qu'il y en a partout, puis en général, ils sont assez faciles à identifier. Alors, ce qui va faire la différence, c'est la connaissance. Alors, la connaissance, elle est donnée par un maître spirituel authentique qui, lui, éclaire la personne réceptive, qui, disons, n'est pas nécessairement disciple au départ, mais qui peut devenir son disciple par la suite à force d'écouter le message d'une âme réalisée. Alors, l'idée, ce n'est pas de chercher à forcer quelqu'un à devenir disciple d'un maître spirituel. C'est pas ça au départ. Au départ, c'est simplement d'écouter par bonne fortune. Parce que tout le monde cherche Krishna, Prabhupada dit, mais personne ne sait comment ou ne sait où le trouver et ne sait non plus quand le trouver. Alors, le quand le trouver, c'est que quand on n'est pas dans une forme humaine de vie, ben, c'est bien de valeur, mais il n'y a pas d'opportunité d'entendre parler de Krishna. Alors, c'est lorsque l'âme se trouve dans un corps humain que l'opportunité est là, mais même si elle a un corps humain, mais qu'elle n'a pas cette bonne fortune d'être associée à des dévots de Krishna, elle ne pourra pas entendre parler de Krishna. Alors ça, c'est dans le Chaitanya Charitamrita, c'est dit Konya Bhagyavan Jiv. Jiva veut dire l'âme spirituelle, l'âme conditionnée. Konya Bhagyavan. Bhagyavan, comme le mot Bhagavan. Bhagavan qui veut dire qu'il est fortuné à l'infini, mettons. Et qu'on a, excusez, Bhagyavan veut dire lorsque une âme est très, très fortunée, qu'elle a beaucoup, beaucoup de chance, elle va pouvoir avoir l'association d'un pur dévot de Krishna. Et c'est à ce moment-là, par la grâce d'un pur dévot, que commence la fin de son conditionnement matériel. Alors, le maître spirituel ouvre les yeux à l'âme conditionnée. Alors, c'est pourquoi on dit « Om Gyana Timirandasya » J'offre mon hommage respectueux à mon maître spirituel qui a ouvert mes yeux avec le flambeau de la connaissance. Alors, la switch, si tu veux, c'est la connaissance. Alors, si on se tourne vers la connaissance, tout comme par exemple, on a des choix à faire dans la vie. À chaque pas, on a des choix à faire. Soit on choisit Krishna, soit on choisit Maya, l'énergie illusoire de Krishna. Alors, comme par exemple, on peut décider que, bon, ben, on va passer notre journée, mettons, à lire un roman qui nous intéresse. Mais si le roman ne parle pas de Krishna, ben, on est en train d'oublier Krishna, là. Par contre, on peut lire la Bhagavad Gita pour le même timing, la même durée de temps, et le résultat va être différent. Si mettons qu'on dit, je vais lire un livre pendant 2 heures. Alors, mettons, roman X, Y, Z, je lis pendant 2 heures. Et après, je lis pendant 2 heures la Bhagavad Gita. Il y a une différence, là. Il y en a un d'un côté qui va, comment on peut dire, simplement nous garder dans l'oubli de Krishna. Alors, comme Prabhupada, il avait écrit une prière dans laquelle il demande à Krishna de ne pas le mettre dans l'oubli. Mais la vie matérielle, c'est ça. C'est être mis dans l'oubli. On oublie Krishna. On fait pas la relation avec Krishna. Ça, c'est la vie matérielle. Et Maya veut dire l'illusion. L'illusion, c'est quoi? C'est de considérer que n'importe quoi qui existe, mais ne pas voir sa relation avec Krishna. Ça, c'est la difficulté. Alors, Maya est comme un voile qui cache la vraie connaissance ou qui obstrue la vraie connaissance ou la prise de conscience de la vraie connaissance de l'être spirituel. Ça répond à la question?
Oui. Juste un autre petit affaire. Bon, c'est comme vous dites, c'est vraiment la grâce de Krishna, premièrement, qu'on peut le voir. Sans sa volonté, on peut pas le voir. Et l'autre, quand vous dites, on lit le livre. Alors, le livre, c'est le monde de dualité, parce qu'il y a l'émotion dedans. C'est un roman, oh, il y a ci, il y a ça. Il y a le livre de Krishna, que c'est amour. On parle juste, dans le fond, c'est vraiment juste l'amour, Krishna veut dire. Tout ce qu'on lit sur lui, toutes les aventures, ça revient toujours à l'amour. Puis si on s'abandonne, ça veut dire qu'on voit l'amour, juste l'amour. Il n'y a plus de dualité entre moi et Krishna. Je coule dans l'amour total. Sans aller, j'aime tout le monde égal. Je vois tout de la même vibration, je sais pas, là, la même œil. Il n'y a pas de jugement.
De là à dire qu'il n'y a pas de jugement, c'est impossible. Parce que quand on regarde des choses, on est obligé de juger. Dans le sens que, pas juger négativement, pas en termes de préjugés, pas de cette façon-là. C'est qu'on juge dans la façon, dans quelle proportion c'est concerne Krishna ou pas. De cette façon-là qu'on juge. Mais on ne juge pas les âmes conditionnées pour ce qu'elles sont dans leur conditionnement. On peut voir, ben ça c'est la maladie matérielle, ça c'est le conditionnement matériel. Mais on va voir, d'après les yeux des Écritures, comme les yeux de la Bhagavad Gita, qui dit l'humble sage qui voit tous les êtres. Attends une minute, c'est dans la Bhagavad Gita, chapitre 5, verset 18. 5, 18.
Qui voit les êtres d'un œil égal, celui-ci est mon ami très cher, ou quelque chose comme ça?
Ouais, il parle d'un œil égal, là. Celui qui est vraiment un pandit, là.
Mais
C'est dit.
il n'y a pas de jugement dans ça.
Attends, on va lire le verset, là. L'humble sage qui éclaire le vrai savoir voit d'un œil égal le brahmana érudit et bienveillant, la vache, l'éléphant, le chien et le mangeur de chien. On peut lire la teneur reportée. Le dévot ne fait aucune distinction de caste ou d'espèce. Dans une perspective sociale, le brahmana diffère de l'intouchable, de même que du point de vue des espèces, le chien, la vache et l'éléphant diffèrent, mais pour le spiritualiste doté de la connaissance, ces distinctions corporelles n'ont aucune importance. Il sait que le Seigneur suprême est présent dans le cœur de tous les êtres dans sa forme de paramatma, son émanation plénière, et voit donc chacun en relation avec lui. Telle est la vision de celui qui détient le véritable savoir. Le Seigneur traite de manière égale tous les êtres, car il se comporte avec eux en ami et demeure toujours auprès d'eux sous la forme du paramatma, indépendamment de leurs conditions physiques ou sociales. Bien que les enveloppes charnelles du brahmana et de l'intouchable diffèrent, le Seigneur vit en chacun d'eux en tant que l'âme suprême. Ces enveloppes matérielles produites par l'interaction des trois gunas prennent diverses formes, mais l'âme et l'âme suprême présentes toutes deux en chaque corps participent de la même nature spirituelle. Leur identité qualitative ne vaut cependant pas sur le plan qualitatif, non, excusez-moi, quantitatif. L'âme distincte n'est présente que dans un corps particulier, alors que l'âme suprême est présente dans tous les corps. Elles se ressemblent dans la mesure où elles sont toutes deux conscientes, éternelles et pleines de félicité, et diffèrent dans le sens où l'une n'est consciente que d'un seul corps, quand l'autre est consciente de tous les corps. L'être conscient de Krishna connaît ces vérités, c'est pourquoi, en véritable érudit, il voit tous les êtres d'un œil égal. Alors, l'humble sage qui éclaire le vrai savoir voit d'un œil égal le brahmana érudit et bienveillant, la vache, l'éléphant, le chien et le mangeur de chien. Alors, il y a un
Égal veut
autre.
dire qu'il n'y a pas de dualité dans ça. Dans les cas égaux, il n'y a pas de dualité. C'est
Il les voit comme des âmes spirituelles.
égal. On est tous égaux.
Disait,
Ben,
oui,
donc,
en
en
tant
tant que...
qu'en
Excusez.
tant qu'âme spirituelle, oui. Alors, c'est pas toujours évident de voir comme ça. Il faut être situé au niveau spirituel pour avoir cette vision-là. Alors, dans la Bhagavad Gita, Il y a un autre verset, le chapitre 18, verset 54. Alors, Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakangshati Samak Sarveshu Bhuteshu Madbhaktim Labhate Param. Traduction. Celui qui atteint le niveau transcendantal réalise aussitôt le Brahman suprême et ressent une joie très profonde. Il se montre égal envers tous les êtres et jamais ne s'afflige ni n'aspire à quoi que ce soit. Il obtient dès lors de me servir avec une dévotion pure. Alors là, il y a une teneur portée qui est assez longue, qu'on va pas, on va pas lire à ce stade-ci, là. Alors, est-ce qu'il y a est-ce que ça répond à la question?
Ça répond à la question, mais il y a d'autres questions qui se soulèvent en même temps.
À voix fort.
Mais, dans le fond, alors, tout ce qui se passe autour de nous, dans tous les vents, les branches, ma parole, tout ça, tout est autorisé par Krishna. C'est-à-dire, c'est par sa volonté. Il n'y a rien qui bouge sans sa volonté.
Ouais.
Alors, on vit à chaque instant dont on respire dans la volonté de Krishna. Notre mouvement, notre pensée, c'est sa volonté avec nos désirs mélangés. On peut changer notre vie ou notre direction de vie si c'est dans notre karma par nos désirs. Si on désire servir Krishna, Krishna nous donne la direction. Si on désire servir Maya, si nos désirs sont là, ben Krishna nous laisse.
Okay.
La seule chose qui nous sépare de Krishna, c'est notre pureté d'âme. Si on n'a pas de contamination matérielle pour nous souillir notre vision spirituelle, c'est-à-dire qu'on est totalement abandonné, comme le début, totalement abandonné à la volonté de Krishna, où ce qui est ni bien ni mal, il y a juste sa volonté, son désir. On lit là, il n'y a rien d'autre que ça.
Ouais, ça c'est une partie de l'équation. Mais une deuxième partie, cette première partie-là, disons, on peut dire qu'elle est très théorique. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, là. C'est la théorie. Mais l'application pratique, ça c'est numéro 2. Et l'application pratique, c'est que, OK, on a compris numéro 1, la vision, etc., etc., mais l'application pratique, c'est de s'abandonner à un maître spirituel qui, lui, va nous guider dans ce qu'il faut faire et qui devient du service de dévotion. Ça, c'est le côté pratique, ça. Prabhupada l'a toujours dit, le service de dévotion, c'est pratique. Souvent, vous allez rencontrer le mot pratique dans les écrits de Srila Prabhupada. Alors, comme c'est dit ici, on relit la première phrase de ce qu'on a lu aujourd'hui. Fort de tout ce savoir, pourquoi attendre encore avant de nous abandonner au Seigneur? Cependant, s'abandonner au Seigneur n'est pas un vœu sentimental. Il doit se traduire sur le champ, en action concrète, chercheuse de bhakti. Alors, la preuve de notre abandon à Krishna, c'est cette proportion dans laquelle on est engagé dans le service de dévotion. Et on doit ajouter sous la directive d'un pur dévot de Krishna. Là, à ce moment-là, on peut dire, ouais, je suis bien situé. C'est ça que Krishna veut de moi, que j'accepte son représentant et que je le serve via son représentant. Ça, c'est pratique, 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 pratique. Et pas plus pratique que ça.
Et comment ça se voit, ça? Visuellement, veut dire, On n'a pas toujours le maître spirituel autour de nous, on a son écriture, mais comment dans l'action quotidienne, l'être qui est conscient de Krishna, comment ça se voit, c'est-à-dire qu'on est abandonné, comment on peut voir le...
On le voit dans nos gestes, dans nos décisions, dans nos actions. C'est comme ça qu'on le voit. Dans le sens que, donnons un exemple, tout le monde prend son petit déjeuner. D'accord? Alors, quand tu es en train de manger, tu peux pas chanter Hare Krishna en même temps. À moins que tu manges, puis tu fais les deux, là. Mais quand tu manges, tu manges. En général, là, tu fais pas d'autre chose que manger. Mais pendant que tu manges, ton mental, lui, il peut penser à différentes choses. Alors, quand tu manges, par exemple, tu peux écouter la radio. La radio va te remplir les oreilles. Puis là, tu vas penser à... Ou tu te laisses simplement... Je te donne un exemple, là, OK? Tu te laisses rentrer tous les messages qui vont et viennent de la radio, ça rentre dans tes oreilles. Nécessairement, tu dois penser à... Et là, tu as des commentaires qui se font dans ta tête à savoir, ça c'est correct, ça c'est pas correct, tel politicien est un ci, est un ça, puis je pense qu'il va arriver ci, je pense qu'il va arriver ça. Ainsi de suite. Mais si tu manges ton prasadam, et comme c'est dit, quand tu manges le prasad, tu es supposé méditer sur le prasad. Alors, c'est quoi le prasad? C'est les reliefs de nourriture d'une offrande qui a été faite à Krishna. Ça, c'est le prasad. La nourriture a été spiritualisée par la grâce de Krishna. Et Krishna a accepté, disons, de consommer. Mais Krishna ne consomme pas comme nous la nourriture. Nous, quand on mange la nourriture, il n'en reste plus après. Mais Krishna ne mange pas comme ça, il ne mange pas comme nous. Krishna, lui, il peut juste du regard manger la nourriture, mais Krishna est très rapide sur ses patins, comme on dit. Il laisse les restants là pour notre consommation. Parce que Krishna, il sait, hey, ces gens-là, s'ils n'ont pas de prasad, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger juste du péché, comme c'est dit dans la Bhagavad Gita. Alors, Krishna mange, mais il laisse le tout intact. Mais parce que Krishna l'a mangé, cette nourriture-là est devenue spiritualisée. C'est une nourriture spirituelle. Alors, comme Prabhupada l'explique dans la Bhagavad Gita, une teneur reportée, la nourriture qui est préparée plus que 3 heures auparavant, avant de la consommer, c'est un peu spécial, hein? Moi, je répète qu'est-ce que Prabhupada a écrit, là. Alors, Prabhupada dit, cette nourriture-là, plus que 3 heures, ça passe dans le mode de l'ignorance. Mais après, Prabhupada écrit, sauf pour le prasadam. Pour le prasadam, peu importe la quantité de temps, peu importe le temps, ça demeure toujours une nourriture spirituelle. Alors ça, c'est Prabhupada qui explique ça dans la Bhagavad Gita. Alors, en tant que dévot de Krishna, on essaie de faire les choses dans le mode de vertu le plus possible. Alors, quand on cuisine pour Krishna, idéalement, on n'attend pas 3 heures que la nourriture. Je dis idéalement, mais ça se passe pas toujours comme ça non plus. Comme par exemple au temple, s'ils décident de faire un grand festival, puis ils décident de faire un baril plein de gulab jamun pour donner aux invités au public, c'est super là, les gulab jamun. Mais il faut que ça trempe dans le sirop de sucre pendant au moins un jour ou deux. Ça, c'est plus que 3 heures, là. C'est pour que ça soit bien rempli de ce sirop-là. Plus c'est juteux, comme les gulab jamun, le mieux c'est. Mais c'est la préparation qui veut ça comme ça. Et il n'y a personne qui va se plaindre. Les gulab jamun, ça fait plus que 3 heures, là. Oublie ça, là. Ça peut même faire 3 jours. Puis ça va être encore bien aussi. Alors, faut utiliser, genre, son jugement, là, son intelligence pour juger des choses. Mais on essaie de suivre les instructions qui sont données par le maître spirituel. C'est ça qui confirme à chaque pas si ce que l'on fait concerne Krishna ou pas. Alors, d'un fois, une question peut être posée. Mais comment savoir si quelque chose que je m'apprête à faire, c'est concerne Krishna ou pas? Il peut y avoir des genres de situations, tu ne sais pas trop, là. À ce moment-là, il y a une réponse. La réponse est de demander à quelqu'un qui est un confrère spirituel, un frère en Dieu, aussi pour aider. Alors, la référence est toujours la même, comme on vient de lire aujourd'hui, Guru, Sadhu, Shastra. Alors, c'est comme ça qu'on visionne les choses dans une perspective de conscience de Krishna. Et si jamais on se trompe, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y a un gourou en quelque part qui va nous dire qu'on s'est trompé?
On va le sentir de nous-mêmes.
C'est ça. Krishna est le gourou à l'intérieur. Krishna est appelé Cheta Guru. Le gourou à l'intérieur, dans notre cœur. Ah, lui va nous le faire sentir aussi, si on a fait une gaffe ou pas. Et de la même façon que si on a bien fait, Krishna est content. Il va nous le faire sentir. Et si on s'est trompé, ben Krishna va s'arranger pour nous faire comprendre qu'on s'est trompé. C'est pas la fin du monde. Pourquoi? On doit pas être condescendant si on s'est trompé. C'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que la relation qu'on a avec Krishna est éternelle. Alors, on peut se tromper. Mettons, après 50 pieds, on s'est trompé. Mais à 60 pieds, mettons qu'on a fait un 10 pieds qui est en dehors de la plaque, là, à côté de la plaque. au 60e pied, Krishna peut nous dire, ben, regarde, là, change ta façon de faire ou change ta façon de voir. Krishna va indiquer. Et Krishna, il force personne. Pourquoi Krishna ne force personne? Et c'est jamais vraiment dur avec Krishna. Pourquoi?
Parce qu'il veut qu'on vienne vers lui par amour.
Exactement.
Par désir.
Exactement. Krishna, il fonctionne comme ça, lui. Par amour. Alors, comme Madhavananda disait au tout début, là, quand on se parlait, tout ça, là, que l'amour de Krishna, mais Krishna, il fait tout par amour. C'est une des raisons pourquoi la félicité de Krishna est sans limite. Parce que lui, tout est fait par amour. Alors, oui, mais là, quelqu'un peut prendre un argument. Ben oui, mais Krishna, il tue les asuras. Il tue les mécréants. Il n'y a pas grand amour là-dedans.
Justement.
Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas?
Il y a personne qui meurt. Il y a personne qui meurt, dans le fond. C'est juste un...
Mais...
Il a de... pour
Non, non, non. Ne déviez pas de la question. La question, est-ce qu'il y a de l'amour ou pas d'amour là-dedans?
Oui. C'est une grande miséricorde.
Oui, aussi. D'accord.
Il offre la libération, même à eux, donc... voilà, quoi.
C'est ça. Krishna, lui, fait tout par amour. Et il sait que s'il tue un mécréant, le mécréant est bénéficié, Krishna lui donne la libération, justement. Alors, mais quand Krishna veut vraiment donner sa miséricorde, il donne le service de dévotion à sa personne. Alors, Prabhupada explique, les impersonnalistes, ils obtiennent la même libération que les démons que Krishna tue. Alors, il y a raison de penser justement que les impersonnalistes sont vraiment pas si avancés que ça, spirituellement parlant, parce qu'ils obtiennent la même libération que les autres. Mais la vraie miséricorde de Krishna, c'est que Krishna donne la chance à quelqu'un de découvrir ou redécouvrir son service de dévotion. Alors, comme par exemple, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, Arjuna pose la question, mais qu'est-ce qui arrive à un spiritualiste? Il a commencé, il a fait un bout, puis là, il a arrêté. Qu'est-ce qui arrive avec cette personne-là? Alors, Krishna dit, dans sa prochaine vie, il prend naissance soit dans une famille riche ou une famille de spiritualistes avancés, et là, il va avoir une seconde chance de continuer son progrès spirituel. Et ça, c'est la grâce de Krishna. Krishna aurait pu le laisser aller. Krishna ne pense pas comme une âme conditionnée, là. Une âme conditionnée qui pense en termes de ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas. Je réagis en conséquence. Ceux qui m'aiment sont tous mes amis, je les aime, puis on s'aime, puis tout est beau. C'est l'âme conditionnée qui pense comme ça. Et mes ennemis, ben, qui crèvent donc tous le plus loin possible dans les pires des conditions, ça va faire mon bonheur. Krishna ne pense pas comme ça. Krishna essaie de faire du bien à tout le monde. Et tout ce que Krishna fait, c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Parce que Krishna est absolu. Alors, tout ce qu'il fait, c'est toujours bénéfique. Peut-être qu'on ne comprend pas, mais lui, il comprend. À long terme. À court terme, moyen terme, long terme, Krishna comprend tout. Il n'y a pas d'erreur dans ce que Krishna fait. C'est impossible. Alors, quelle doit être l'attitude d'un dévot dans de telles circonstances?
D'abandonner à sa volonté.
Oui, mais disons, on met l'abandon de côté, là. On parle encore de l'attitude. On en a déjà discuté dans les cours.
Mais c'est de remercier Krishna pour le fumier qu'on prend pour mieux grandir.
Oui, correct. Alors, Krishna, le dévot, lui, son attitude, c'est il prend tout comme la miséricorde de Krishna et il est, comment on peut dire, il ressent de la gratitude par rapport à Krishna. Un non-dévot, quand ça va mal, lui va jeter le blâme sur la providence. Ou pourquoi est-ce que Dieu me met dans le trou comme ça? Il va poser des questions, mais il sera pas content. Et un dévot, lui, qui s'est abandonné à Krishna, ben que ça tourne de n'importe quelle façon, il va toujours trouver une façon de rester calme pour commencer, là. Comment on peut dire, en anglais, on dit equipoised, d'humeur égale, de conscience égale. Mais ce à quoi le dévot est attaché, c'est de rester déterminé à servir Krishna. Alors, ça, c'est un dévot. Alors, et ça, c'est vraiment une marque de commerce, si on peut parler comme ça, entre guillemets, des dévots de Krishna. Alors, ce matin, je regardais une vidéo d'un YouTube de dévots. C'est sur Dandavat, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. Mais je me suis dit, OK, je vais aller voir ce petit reportage-là. Et le dévot, c'est un dévot, Je pense indien. Sa couleur de peau est très claire, pas foncée pour un indien, en tout cas. Mais je pense que c'est un indien. Et il faisait un reportage. Il est allé en Afrique de l'Ouest. Il est dans un hôtel. Il y a un petit village qui s'appelle Lomé. L-O-M-E, accent aigu. Et là, il se demandait s'il y avait un Iscon dans les parages, dans les voisinages de son hôtel où il était. Et effectivement, il a trouvé qu'il y avait un Iscon qui se trouvait à peu près à 4 km de son hôtel. On est allé voir. Puis là, dans cet endroit-là, il y a un temple de Iscon. Mais le temple, c'est comme une, il a montré dans le YouTube, là, c'est comme un grand bâtiment, mais qui s'est effondré. Le grand bâtiment, il reste juste les poutres, il reste rien, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Alors les dévots se sont construits un genre de hutte à côté. Il y a 3 dévots seulement qui sont dans ce temple-là. Et ils adorent Radha Krishna. Ils ont des déités. Ils ont 3 dévots. Et ce dévot-là indien, il dit, est allé avec ces dévots-là. Ces dévots-là lui ont demandé de faire des kirtanes, en tout cas de participer aux cérémonies habituelles. Et puis, il était très content. Puis après, il est retourné à son hôtel. Ce dévot-là, il va pas rester là, là. Mais il montrait un dévot de cet endroit-là, vu que c'est en Afrique, ben le dévot il est noir, là. C'est un dévot noir de la place, mais tête rasée, le tilak, un vrai dévot. Et ça, c'est comme genre incroyable, là. Dans une place perdue en Afrique, Iscon est là. Il y a 3 dévots. Puis ils sont en Vaishnav. Puis au départ, celui qui raconte ça, il disait que c'était pas conseillé d'aller de cet endroit-là parce que c'est dangereux. Le voisinage, il y a beaucoup de vols, il y a des crimes, etc. Mais ces 3 dévots-là sont là. Ils ont un temple de Iscon là-bas. Alors ça, c'est des dévots comme ça, là. Ils ont une conscience, je dirais, un peu au-dessus de la normale par la force des circonstances. Et ça, c'est la grâce de Krishna, la grâce de Prabhupada, que ça se passe comme ça. Alors, il y a pas juste cet endroit-là, mais il y a d'autres endroits sûrement dans le monde où les dévots sont peut-être dans des circonstances plus difficiles que d'autres. Mais Krishna est là. Krishna prend soin de ses dévots. Krishna les garde conscients de Krishna. C'est la grâce de Krishna. Parce que c'est pas le nombre qui fait la différence. C'est la conscience. Et la conscience, une fois que quelqu'un a progressé suffisamment dans la conscience de Krishna, il peut pas oublier. Il peut pas oublier Krishna. C'est la grâce de Krishna, ça. Pour n'importe quel dévot. Un dévot peut avoir 1000 dévots à côté de lui. C'est une chose. Puis il peut avoir 1 ou 2, 3 dévots avec lui. C'est une chose. Puis il peut être tout seul. Sa conscience va pas changer. Alors, comme Prabhupada est venu en Amérique tout seul, est-ce que sa conscience a changé? Pas une miette.
Non, mais c'est Prabhupada.
Non, non, non. C'est Prabhupada, oui. Mais,
Il y a un autre niveau.
oui, à un autre niveau, Uttama Adhikari, là, un pur dévot de Krishna. Mais l'exemple est là
C'est
pareil.
vrai.
L'exemple est là pareil. Comme Prabhupada envoyait des dévots des fois dans d'autres pays, Les dévots, un dévot était tout seul pour commencer le bal. Il a réussi. C'est comme une fois, il y a eu, j'en ai parlé, je pense, au cours d'avant, avec Tamal Krishna, il y avait eu quelque chose qui avait déplu à Prabhupada. Puis ce dévot-là se sentait comme un peu mal. Puis il avait envoyé comme ça dans les airs un commentaire. Il a dit, ben peut-être aller en Chine, faire quelque chose. Puis le Prabhupada l'a pris, il a pris la balle au bon. Il dit, oui, va en Chine. Alors, il a envoyé Tamal Krishna tout seul en Chine. Et il a démarré la conscience de Krishna là-bas. Alors, même dans le temps de Prabhupada, il y avait déjà des dévots à Hong Kong. Parce que Hong Kong puis la Chine, c'était considéré deux places différentes, là. C'était sous le gouvernement britannique. Mais toujours est-il que Tamal Krishna, lui, est allé en Chine continentale, et puis il a démarré la conscience de Krishna. Et une fois, c'est ça, c'est à Mayapur, quand je suis allé en Inde la dernière fois, j'ai rencontré une dévote de Chine. Et elle m'avait dit que il y a beaucoup de dévots en Chine. Alors, c'est à peu près juste ça qu'elle m'a dit et que j'ai retenu. Et que la conscience de Krishna, ça passe partout. Même si c'est régime communiste, ça fait pas de différence. En Russie, c'était la même chose quand les dévots ont commencé en Russie. Et en fait, quand les dévots ont commencé à Russie, c'est qui a commencé la Russie, vous pensez?
Prabhupada.
Oui, c'est Prabhupada lui-même. Prabhupada voulait aller à Moscou. Prabhupada a voyagé dans beaucoup d'endroits, mais voulait aller à Moscou. Alors, une fois, il est allé à Moscou, avec son serviteur Shyam Sundar. Et puis, comme Prabhupada fait toujours, il va essayer de faire des conférences, ou de ceci ou de cela. Et puis, Shyam Sundar, avec sa tête rasée, puis sa sika, tout ça. Il y a un garçon qui l'a vu dans un marché. Puis, il a comme été intrigué par ce dévot-là, Shyam Sundar. Puis Shyam Sundar lui a expliqué, notre gourou est en ville, c'est en train de venir le voir. Puis il a dit, il a donné les coordonnées, tout ça. Puis ce garçon-là est venu. Et comme du jour au lendemain, Prabhupada l'a initié. Et ce dévot-là, c'est lui qui a démarré la conscience de Krishna en Russie. Et ça a été très, très vite. Propager la conscience de Krishna en Russie. Les gens étaient vraiment comme avides de trouver quelque chose de mieux ou de... C'est ça. Que qu'est-ce qu'ils avaient à se mettre au lieu de la propagande communiste, etc. Alors, la grâce de Krishna est inconcevable. Que ça peut prendre des tournures des fois... Ça a de l'air d'un miracle, mais pour Krishna, c'est la normalité des choses. Là. Quand il faut que la conscience de Krishna se propage, Krishna est là dans le background et puis ça va finir par marcher, fonctionner. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
C'est une question sur le dévot en Russie. Il n'a pas mis en prison aussi ce dévot-là? Quand il y avait un moment, là, quelque chose comme ça.
Oui. Je pense qu'il était à peu près un an en prison. Quand ils l'ont sorti, il était quasiment mort. Juste pour dire, il est mort. Que je sais qu'il y a un dévot en Russie, il était mis en prison, ils l'ont sorti. Il était tellement mal en point, très peu de temps après, il a quitté son corps. Alors, Il y a des dévots à qui c'est comme ça, mais avec la bonne attitude, la bonne conscience, la détermination intérieure, tu peux pas détruire la conscience de Krishna dans l'âme d'un dévot. Tu peux pas. Alors, quel est l'exemple dans les Écritures de quelqu'un qui a essayé de détruire la conscience de Krishna d'un dévot?
Hiranyakashipu.
Exactement. Il a tout fait pour, même quitte à tuer son fils. Il a tout fait, mais jamais été capable, parce qu'il était protégé par Krishna. Il pouvait rien faire. Alors, il y a un proverbe bengali qui dit, Mare Krishna Rakeke, Rake Krishna Mareke. Ça veut dire, si Krishna veut te protéger, il n'y a rien qui peut t'arriver. Mais si Krishna ne te protège pas, il n'y a rien qui peut te protéger. Alors, c'est ça un dévot. Un dévot s'abandonne à Krishna. Il s'en remet à la volonté de Krishna, la bonne grâce de Krishna. Et puis le dévot est sans anxiété. Pas d'anxiété, un dévot. Pourquoi il n'y a pas d'anxiété? C'est une bonne
il
question.
S'attend à rien. Il s'attend à rien de la vie à part de servir Krishna. Alors, l'anxiété peut pas exister si tu t'attends à rien.
Oui, c'est en plein ça. C'est qu'il y a pas, il est pas attaché aux fruits de ses actions. Puis il se considère pas comme le bénéficiaire de ses actions. Le bénéficiaire, c'est Krishna. Alors, c'est dans un sens, c'est une conscience qui est complètement à l'opposé de la conscience matérialiste. La conscience matérialiste, c'est toujours moi, moi, moi et je. Moi, je suis le centre et moi, je veux jouer et même croire que l'on est propriétaire de quelque chose. Mais la conscience spirituelle, c'est je ne suis pas le propriétaire, je ne suis pas le bénéficiaire. Tout ça, c'est Krishna. Je suis simplement une partie, une parcelle serviteur de Krishna éternel. Laissez-moi agir dans cette conscience-là. Je vais être, ça fait mon bonheur. Il n'y a pas d'anxiété à ce moment-là. Alors, dans la Bhagavad Gita, est-ce qu'on a un exemple de l'anxiété que peut mettre quelqu'un, qui peut recouvrir quelqu'un?
Le doute d'Arjuna, les doutes d'Arjuna.
Exactement. Arjuna, au début, il est comment?
Ah ben, il veut pas faire la guerre, il comprend pas, il veut pas tuer ses amis, ses cousins, ses maîtres d'armes. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi il faut que je fasse ça? En fait, il est dans des doutes il est dans un genre de trouble. C'est un grand trouble.
Oui. En fait, le Arjuna du début de la Bhagavad Gita par rapport à la fin de la Bhagavad Gita, ce Arjuna du début est méconnaissable. Comme Krishna lui dit, Arjuna, tu parles comme un grand érudit, mais en fait, tes valeurs ne conviennent pas à ceux qui sont des Aryens. Les Aryens, Prabhupada l'explique, c'est quelqu'un qui connaît les valeurs spirituelles de la vie. Ça matche pas ton raisonnement. Alors, Krishna va lui donner, justement, l'enseignement de la Bhagavad Gita. Alors, Prabhupada dit dans une classe, justement, que Arjuna, au début, il prépare le contexte dans lequel va être prononcée la Bhagavad Gita. Alors, Arjuna ne peut pas être sujet à l'ignorance. C'est une âme libérée éternellement, un associé éternel de Krishna. Il peut pas être comme une âme conditionnée ordinaire. Mais c'est comme il joue un rôle pour justement que soit prononcée la Bhagavad Gita. Et Krishna, En fait, ça se passe sous le contrôle de Krishna. Arjuna est comment on dit, est sous l'effet d'une déconfiture. Et Krishna est d'accord avec ça dans le sens que, attends, on va te sortir de cet empêtrement-là. Et puis, tu vas finalement être engagé au service de Krishna. Alors, comme Krishna lui explique, t'es un kshatriya. Même si tu veux pas combattre, par ta propre nature, tu vas être obligé de combattre. Parce que c'est ça ta nature, t'es un soldat. Alors, comment un soldat ne peut pas agir comme un soldat s'il est mis dans une situation qui requiert justement la participation d'un soldat? C'est impossible. Alors, c'est comme, par exemple, comme ça arrive des fois, on entend ça dans les nouvelles. J'ai déjà entendu ça, en tout cas, que il y a un policier qui était en congé. Et là, il a vu une circonstance, disons, qu'on peut dire en québécois, pas correcte. Une situation dans laquelle il pouvait intervenir parce que lui, il savait quoi faire. Il a la formation, il a tout. Et ce policier-là, c'est jeté dans la situation et ça a bien tourné. Alors, la position d'Arjuna, c'est que même s'il ne veut pas combattre, mais il est sur un champ de bataille. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il ne peut pas s'en aller, là. Il est là, là. La bataille va avoir lieu. Même s'il veut s'en aller, il va être encore dans le champ de bataille. Alors, il va être obligé de combattre. Il faut qu'il se range d'un côté ou de l'autre. Alors, Krishna enseigne le Bhagavad Gita et finalement, il décide de combattre pour Krishna. Ça, c'est la Bhagavad Gita. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? OK, d'abord. Alors, on va y aller pour la conclusion. Ananda, veux-tu lire?
Oui, avec plaisir. Conclusion. Jetons maintenant un second regard sur la longue route de la réalisation spirituelle, laquelle peut se partager en deux voies, une indirecte et l'autre directe. Il y a de la place pour tout le monde sur la dite route à deux voies. La route n'en demeure pas moins toute inclusive, menant au succès de tous et chacun, tôt ou tard. À ce propos, la Bhagavad Gita 12.12 nous éclaire ainsi. Shreyo i janam abhyasaj janad dhyanam vishishyate da dhyanat karma phala tyagas tyagak chantir anantaram. Shreya, mieux, hi, certes, janam, la connaissance, gyanam, pardon, la connaissance, abhyasat, la pratique, dhyanat, que la connaissance. Dhyanam, la méditation. Vishishyate est considéré meilleur. Dhyanat, que la méditation. Karma phala tyagaha, le renoncement aux fruits des actes. Tyagat, par ce renoncement. Chanti, la paix. Anantaram, par la suite. Si à la pratique de la conscience de Krishna, tu ne peux te plier, alors cultive la connaissance. La méditation est cependant bien supérieure et le renoncement aux fruits de l'acte plus élevé encore, car il confère la paix de l'esprit. Teneur et portée. Les versets précédents nous ont montré deux aspects du service de dévotion. La voie de l'attachement total au Seigneur suprême, par amour pour lui, et la voie des principes régulateurs. À celui qui se trouve dans l'impossibilité de suivre ces principes de la conscience de Krishna, il est conseillé de cultiver la connaissance, laquelle lui permettra de comprendre sa nature véritable. Cette connaissance, en se développant, mènera à la méditation, laquelle, en se développant, à son tour, permettra graduellement de comprendre Dieu, la personne suprême. Certaines pratiques conduisent leurs adeptes à se prendre pour Dieu, et cette forme de méditation est préférée de ceux qui sont incapables de se dédier au service de dévotion. Si l'on ne peut méditer, on peut au moins se conformer aux devoirs prescrits dans les écritures védiques, lesquels concernent les brahmanas, les kshatriyas, les vaishyas, et les shudras, dont nous trouverons la liste au dernier chapitre. Mais quel que soit ce devoir, il faut toujours renoncer aux fruits de son labeur, c'est-à-dire employer le résultat de ses actes, karma, au service d'une bonne cause. On voit donc, en résumé, que deux voies mènent au but suprême, à Dieu. L'une est directe, l'autre graduelle. La voie directe consiste à pratiquer le service de dévotion dans la conscience de Krishna, et la voie indirecte à renoncer aux fruits de ses actes pour arriver à la connaissance, puis à la méditation, puis à la réalisation du Paramatma, et finalement à Dieu, la personne suprême. On peut donc prendre soit la voie rapide, soit la voie qui oblige à avancer pas à pas. Et parce que tous ne sont pas capables de suivre la première méthode, la seconde est également valable. Toutefois, comprenons bien que Krishna ne recommande pas la voie indirecte à Arjuna, car celui-ci a déjà atteint l'étape du service d'amour et de dévotion à Dieu. La voie indirecte ne concerne que ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau. Ils doivent s'élever graduellement du renoncement à la connaissance, puis de la connaissance à la méditation, et enfin réaliser l'âme suprême et le Brahman. La Bhagavad Gita, quant à elle, souligne la voie directe et conseille à tous de s'abandonner directement à Dieu, la personne suprême, Krishna. Nous voyons maintenant combien il est encore plus évident de suivre la voie directe recommandée dans la Bhagavad Gita. Soyez sans crainte, si vous lisez ces lignes, c'est signe que vous êtes déjà engagé sur la voie directe engendrée par le service de dévotion. Alléluia!
Jai.
Jai.
Est-ce que vous avez des questions, des commentaires?
Ce dernier petit paragraphe, ça fait un peu de bien, même si on sait que le chemin, c'est entre guillemets direct, mais il y a quand même du travail, mais c'est, voilà, disons que ça fait du bien à lire, quand même. Parce que des fois, on se demande.
Non, faut pas avoir de doute. Faut avoir aucun doute. Le Prabhupada explique dans la Bhagavad Gita, une teneur apportée, que le dévot a cette conviction que parce qu'il est situé sur la bonne voie, le succès, le plein succès, va venir, disons, au bout. Le dévot a cette confiance, cette foi. Sinon, à quoi ça sert de servir Krishna? Et quelqu'un peut dire, ben, sers Krishna de toute façon, même si tu ne comprends pas grand-chose, sers Krishna, c'est correct. Mais pourquoi ça pourrait pas être un peu différent dans le sens que un dévot doit être conscient. Il doit être conscient de qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est impliqué. C'est ça une vie pleine de connaissances quand on dit Satchit Ananda, une vie pleine de connaissances, de félicité, d'éternité. Ben, l'aspect connaissance, le dévot, il l'a. C'est disponible. Alors, tout comme c'est expliqué, il y a différents degrés de dévots, mais il y a des dévots qui sont plus connaissants que d'autres. Il y en a qui sont moins connaissants, il y en a qui sont quelque part dans le milieu, mais disons, les purs dévots, eux autres, ils ont pleine connaissance, là, par la grâce de Krishna, mais ça veut pas dire que quelqu'un d'autre peut pas avoir accès à plus de connaissances. C'est ça l'effort qu'on fait tous les jours. Augmenter notre capacité de connaissance. C'est pour ça qu'on lit les livres de Prabhupada, qu'on écoute des classes ou qu'on fait des classes pour devenir plus sont imprégnés de connaissances spirituelles? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ben, plus on a de la connaissance, plus on développe notre amour pour Krishna. Et ça me fait toujours penser à, je pense que c'est Prabhupada, c'est qu'il avait dit, ou c'est écrit dans un des livres, ben, Prabhupada, mais qui disait que justement, quand on voit les gopis, elles connaissent rien des rites ou des choses comme ça, et pourtant elles aiment Krishna avec pur amour. Donc c'est sûr qu'on a besoin de connaître les écritures et tout dans ce monde, mais c'est sûr que la première chose, voilà, c'est que cette connaissance nous aide à développer un amour pur pour Krishna au final.
Ouais, définitif. Parce que c'est toujours un choix. On revient toujours le même sujet. C'est un choix que l'on fait. Un choix qui doit être éclairé et qui est éclairant aussi, le choix que l'on fait. Tu sais, quand on écoute une classe, on sait pas qu'est-ce qui nous attend au bout de la classe parce qu'on n'est pas rendu là. Tu sais, mettons, on décide, on va écouter une classe de Prabhupada. Une classe de 45 minutes. Bon, ben au début on écoute, mais on sait pas qu'est-ce qui s'en vient à la fin de la 45e minute de la classe, mais on va écouter, on va se rendre jusque-là. Alors c'est comme ça la conscience de Krishna. On acquiert de la connaissance, on devient plus conscient de Krishna, et puis on devient plus, comment on peut dire, plus ample. Rempli de la conscience de Krishna. Ça veut dire qu'on aime un peu plus Krishna tous les jours.
Et nos choix sont différents aussi après.
Ouais.
Il y a plusieurs quand même portes pour entrer dans la conscience de Krishna. Il y a la connaissance, mais de temps en temps, on lit que quelqu'un, il n'y a pas d'éducation, il sait pas lire, rien, mais il y a tellement de dévotion, d'amour, que la connaissance lui vient sans nécessairement avoir la capacité de lire ou je sais pas, quelque chose comme ça, là.
Ouais, parce que Krishna est dans le cœur, il éclaire les dévots de l'intérieur, ils ont des réalisations, et ce n'est jamais, c'est jamais, c'est pas une question de karma, ça, le service de dévotion. C'est une question de grâce de Krishna, qui donne la chance, qui confère la grâce de le servir. C'est la grâce de Krishna, non? Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, si ça vous dérange pas. Alors,
Ben, ça fait plaisir de revoir notre
oui.
petit groupe tout ensemble. C'est un bout de temps, là.
Ouais, moi j'ai trouvé ça long, en tout cas.
Oui.
Mais il y avait d'autres choses à faire pour le projet des livres de Chaitanya Charitamrita. Ça a bien été. Ça progresse bien. Et on est bien content que ça. Alors, ça m'a donné plus de temps pour ça aussi, là. Et puis, il y a eu, n'oublions pas, le Rathayatra de Montréal en début de juillet, le premier week-end de juillet. Ça aussi, c'était très bien. Et voilà, il y a eu celui de Toronto après, puis voilà.
Une
Alors,
petite question pour
merci.
la traite. Juste,
Oui.
est-ce qu'il y avait beaucoup plus de monde, on va dire, pour la traite que normal cette année?
Peut-être que oui. Peut-être que oui. Disons moi, j'ai pas pris de photos, mais juste à regarder la foule de monde qui était devant le chariot, là, c'est assez impressionnant. Il me semble qu'il y avait plus de monde que d'autres années, je sais pas, là. Puis en plus, il pleuvait pas. Il faisait beau cette journée-là, une bonne température. C'est drôle un peu parce que les journées d'avant, c'était la canicule. Il faisait au-dessus de 30 degrés à Montréal. Et pour le Rathayatra, il faisait dans les 27, 28. Ça s'est baissé un peu, c'est plus supportable. Et puis, c'est la grâce du Seigneur Jagannath, ça a bien été. C'était bien, ce Rathayatra-là. Et cette fois-ci, on était au parc Jeanne-Mance. C'était pas le parc à Ville-la-Salle, là, qui était un peu compliqué à aller, là. C'est pas pareil, mais parc Jeanne-Mance, c'est parfait. Il y a une pancarte maintenant au parc Jeanne-Mance, c'est marqué, c'est le parc des expositions. Tu sais, la théâtre est pas tout seul, là. Il y a d'autres mondes qui ont d'autres événements, puis ils viennent les mettre là, à cet endroit-là où il y a le Rathéâtre. Et ça, c'est bien. C'est super. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup. Et prenez soin de
Beaucoup à
vous.
vous.
Et puis,
Merci beaucoup. Oui.
on t'entend, là.
Mercredi.
À
Oui.
mercredi. Mercredi
À
soir.
mercredi.
À mercredi. Oui, j'avais un problème de speaker puisqu'on m'a changé mon ordinateur la fin de semaine dernière et je comprenais petit à petit et là j'avais pas fait de connexion Zoom encore et je comprenais pas et en fait c'était le speaker qui était mal sélectionné.
D'accord.
Allez,
D'accord.
Krishna.
OK, merci
Allez,
beaucoup.
Krishna.
Hari
Hari
Bol.
Bol. À
Hari Bol.
mercredi alors.
Oui, à mercredi. Allez,
Jai.
Krishna.
Allez,
Allez, Hari
Krishna.
Bol.
Allez,
Jai.
Bol.
Hari Bol.
Allez,
Jai.
Bol.
Jai.
Jai.
Voilà.
Les mêmes trois personnes?
Ouais.
Les gens n'est pas là?
Non, les gens ne viennent pas.